Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, béni soit son nom à jamais. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, béni soit son nom à jamais. Car il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, béni soit son nom à jamais. Le Seigneur fait œuvre ta justice, donne la grâce d'amour, défend le droit des opprimés. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, loué soit son nom à jamais. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, il montre ses hauts faits. Oui, le Seigneur est tendresse et pitié. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, béni soit son nom à jamais. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ah, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Qu'il répande sa lumière vivante comme un manteau sur toute l'orbe de la terre. Qu'elle pénètre et donne sa bénédiction à toute chair, soit fait de sainteté toute pure et éternelle, qui puisse voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut, libérées de toute entrave, lavées de toute faute du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi. Alléluia, louange à toi, Alléluia. Et louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi. Alléluia. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Dieu est révélé au tout petit. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages ô savant, tu l'as révélé au tout petit. Ces paroles ont été prononcées pour la première fois par Jésus de Nazareth, fils d'Israël, descendant de David, fils de Dieu. Elles ont constitué un tournant fondamental dans l'histoire de la révélation de Dieu à l'homme, dans l'histoire de la religion. Elles ont constitué aussi un tournant fondamental dans l'histoire spirituelle de l'humanité entière. C'est alors que Jésus a révélé Dieu comme Père et s'est révélé lui-même comme Fils, de même nature que le Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, est celui à qui le Fils veut bien le révéler. Oui, Jésus de Nazareth s'est révélé alors lui-même comme Fils, de même nature que le Père. Oui, le Fils qui prononce ces paroles avec un profond tressaillement de joie sous l'opération du Saint-Esprit. Comme le précise Saint Luc, chapitre 10, en disant cela, révèle par elle le Père au tout petit, parce que le Père se complaît dans les tout petits. Ces petits, ces pauvres, doux et humbles de cœur, dans lesquels le Père du ciel a trouvé sa pleine joie, auquel le Christ a révélé le mystère insondable de Dieu, en leur donnant de connaître le Père comme seul le Fils connaît le Père, et en même temps de le connaître lui-même, lui, le Fils, comme seul le Père le connaît. C'est pas dans l'évangile de Saint Jean on a ça, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu. Vous trouvez dans l'évangile des passages où il y a la très sainte Trinité. Il y a des gens qui ont lu l'évangile des centaines de fois et qui disent que jamais, 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 on ne voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais là, dans Saint Matthieu, si vous vous rappelez, c'est chapitre 11 de Saint Matthieu, verset 11 plus 11. Saint Jean, bien sûr, quand on parle beaucoup, que Saint Jean va déployer des chapitres avec la très sainte Trinité, donner de manière explicite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De sorte qu'on peut avoir lu le Nouveau Testament des centaines de fois et ne pas le voir, dire non, oui. Les musulmans, le témoin de Jéhovah, la synagogue. Alors, cette parole, que personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils, sinon, si ce n'est le Père. Et Jésus, quand il dit ça, il est dans un tressaillement d'allégresse, très soulevé par un frémissement de bonheur. Et personne ne connaît le Fils, seulement le Père. Et son frémissement de bonheur et l'accompagne. Toute sa nature, toute son incarnation, tout ce qu'il est pro, dès qu'il se tourne vers cette... dès qu'il s'enfonce dans ce fait, quoi. Il est de même nature que le Père. Et que cela s'est révélé au tout petit. Et seulement au tout petit. Et ce à qui, lui, il veut bien le révéler. C'est-à-dire seulement au tout petit. C'est impressionnant. Mais personne ne connaît le Père. Seulement le Fils, et seulement, et personne ne connaît le Fils, et seulement le Père connaît, et seulement le Père n'est connu que par le Fils. Même, voyez, même l'ange ne connaît pas Dieu.
Et Marie ?
Et non plus. Et donc, personne, aucune créature ne connaît Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse voir Dieu tel qu'il est de l'intérieur de lui-même. Il y a, de toute façon, il n'y a pas d'extérieur. Seulement Dieu connaît Dieu. Dieu, bien sûr, le Père connaît le Fils. Parce que tout ce qui est... concevable, conçu, conception, enfin, lumière en Dieu, c'est justement le Fils. Et c'est dans cette lumière que le Père est connu comme source, comme principe, comme impôt. Et il y a des profondeurs, il y a des abîmes, il y a des hauteurs, des... sauf que elle relève pas, je veux dire, d'un monde qui ne s'arrête jamais d'être appréhendé. C'est pas du tout une connaissance infinie. C'est une connaissance absolue, ce qui est tout à fait différent. C'est pour ça que l'Église a utilisé, pour en exprimer la doctrine, le mot hypostase. C'est une connaissance hypostatique. C'est une connaissance personnelle. C'est-à-dire toutes les dimensions absolues. Ouais. Dieu connaît, se connaît et connaît. Le Père connaît, Dieu le Fils. fou, quoi. Il existe, mais son existence est vivante. Et cette existence vivante, c'est le Fils. Et l'existence vivante de Dieu, c'est Dieu tout seul, à lui tout seul. Et cette existence de vie vivante avec lui tout seul, absolue, hypostatique. D'accord, elle voit, elle aime, elle est libre, elle est absolument frémissante de conception agréée. Il y a toujours quelque chose de nouveau à l'intérieur de Dieu. C'est pour ça que c'est très proche des tout-petits. Très très proche du tout petit. Parce que vous vous rendez compte, quand quelque chose arrive d'un seul coup, à partir de rien, une conception. Et chez nous, les êtres humains, à partir de rien, une conception. Vous vous rendez compte, les jumeaux par exemple. Il y a un jumeau, à un moment donné, qui à partir de rien, conception du deuxième jumeau à partir de lui, à partir de rien, conception. Et alors là, il le voit que Dieu est absolu, que Dieu est lumière, la créature de Dieu. Il envoie quelque chose comme ça. C'est un peu comme si on voyait Jésus transfiguré sur le mont Tabor. Il envoie quelque chose parce qu'on est quand même enveloppé dans une certaine lumière à ce moment-là. Et puis en même temps rayonner, du coup, ben, ça rebondit, ça surabonde en torrent de lumière. Mais ce n'est pas la lumière. Le jumeau, d'un seul coup, à partir de rien, d'un seul coup, il y a cette lumière. Et en même temps, le monde angélique. Donc cette lumière prend des dimensions d'espaces intérieurs qui n'ont aucune limite, aucune limite. Là, cette fois-ci, c'est infini. Sans s'arrêter. Le jumeau voit ça d'un seul coup, d'une tarie, un milliardième de seconde avant, il n'y a rien, un milliardième de seconde avant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous voulez rire, il y a quelqu'un, il y a Dieu, il y a des dimensions très profondes, et c'est pour ça que Dieu ne peut révéler, Jésus de Nazareth ne peut révéler la paternité, enfin, oui, de Dieu, cette conception, qu'à ceux qui veulent bien le révéler, c'est-à-dire ceux qui poussent leur cri de contemplatif à partir de rien, un peu comme au jour de leur conception, à partir de rien, il y a tout. Alors ceux qui sont comme ça, il veut bien leur révéler que lui, à partir de tout, et les conceptions, ça, mais éternel, absolu, continuellement, éternellement. Les anges ne connaissent pas ça. Les anges, ils pénètrent en Dieu dans les attributs divins, par exemple, et aussitôt qu'ils sont créés par Dieu, c'est quelque part quelque chose de très très fort de Dieu lui-même, parce que là, un ange d'un esprit pur, qui est une participation à l'existence de Dieu. Et Dieu, par exemple, quand il existe, il est parfaitement pur. Quand Dieu, quand il existe, il est parfaitement libre. Quand Dieu existe et qu'il il est parfaitement éternel. Alors c'est pour ça qu'il y a l'ange qui s'appelle éternel. Il y a l'ange qui s'appelle libre. Il y a l'ange qui s'appelle pur. Et des attributs divins, comme il y en a des myriades d'attributs divins. Alors, l'ange est à lui tout seul là, quand il contemple, quand il voit. Il voit quelque chose de Dieu, c'est son attribut.
Il n'est pas tous les attributs, il n'est pas toute la vie, il n'est pas toute l'existence, et il n'est pas tout l'absolu de Dieu. Mais on n'empêche que ce qu'il a de Dieu, c'est Dieu. C'est vrai, dans, par exemple, son éternité. C'est extraordinaire de savoir que je m'appelle éternité. Je suis l'ange éternité. Je suis l'ange séraphin. Dieu est un feu brûlant, d'amour. Il n'y a plus rien d'autre que Dieu. Embrasé d'amour. Et ça, à l'infini, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, derrière, sans s'arrêter. Un espace qui est impossible de s'arrêter. Même les espaces de la résurrection ne l'arrêtent pas. Même l'espace jusqu'à l'intérieur de Dieu. L'ange pénètre la séraphie. Le feu séraphique de Dieu. Magnifique ça. C'est trop beau un ange comme ça. J'espère que c'est votre ange gardien, c'est un séraphin. Mais le séraphin ne naît pas éternellement comme existence incréée de Dieu. Il est créé par Dieu. Et d'une participation vivante à l'existence de Dieu. Et c'est un être contemplatif, donc il connaît quelque chose d'essentiel, de vivant, et directement à l'intérieur de Dieu. Mais il ne connaît pas tout Dieu. Il ne connaît pas sa substance. Il ne connaît pas son hypostase. Il ne connaît pas à la manière de Dieu, parce que Dieu connaît lui, de manière contemplative, mais à la manière d'une conception. Mais de manière éternelle. Incréé. Dieu connaît ce qu'il conçoit. Dieu est vivant. Ouais, c'est pas du tout pareil, voyez, quand on fait un acte de vie contemplative, de dire que Dieu c'est un être infini d'amour, et dire que Dieu est amour, substantiellement, hypostatiquement, absolument, personnellement. C'est très différent, l'infini. Et puis l'absolu. Et personne ne connaît le Père, seulement le Fils, le Saint-Esprit. Personne ne connaît le Fils, seulement le Père. Quand Jésus dit ça, il s'est réfugié dans la lumière de gloire. Des sommets de sa vision béatifique humaine. Il a repoussé l'espace de sa croix. Il est venu prendre un bol d'air dans la joie de la conception. Et puis il dit ça. C'est beau ça de voir ça, Jésus. Qui vient prendre de temps en temps, voilà, pas de temps en temps, c'est en fait c'est continuellement, mais c'est des instants aussi. Son humanité a besoin que ça s'inscrive dans un rythme humain, à l'intérieur du temps, de la vie. Dès que tu es conçu, tu ne pousses pas un cri, il faut attendre 9 mois pour ça. Mais il y a une dilatation à la conception, c'est ça. Quand Dieu crée le monde angélique, il y a une dilatation de l'absolu divin. Dans l'infini. Il y a des gens qui pensent contempler, être des grands contemplatifs de Dieu, parce que, par exemple, je prends un petit peu de drogue, je prends du LSD. Là, je prends une petite goutte de LSD sur un buvard, et hop, toc. Alors, tous mes circuits cérébraux, enfin, pas tous, mais certains noms, brûlent complètement, sont entièrement grillés, parce que sur voltage exponent, et je vois un truc sans limite à l'intérieur de Dieu, sans fin, infini. Ah, mais oui, mais Dieu est infini, Dieu est infini. Ben voilà, malheureusement, c'est pas vrai. Et tu le vois, à travers la drogue, tu vois, tu aimes Dieu du coup, bien sûr, on est d'accord. Quand tu fais une near-death experience, tu sors de ton corps pour partir en astral. à cause d'un accident de voiture, à cause de, d'un grand choc, ou d'un truc d'acide, hein, tout dépend. Ou à cause d'un gourou qui te donne un grand coup comme ça en t'ouvrant un chakra d'un seul coup. Bon. Mais ça, oui. L'amour infini, la lumière infinie. Mais ça, c'est un schéma imaginatif, vous voyez, parce que quand les neurones ici, c'est des chaînes de neurones qui vont du névrax au cerveau antérieur. Il paraît que tu prends de l'acide, ça te fait. Ça te brûle. En les détruisant d'ailleurs, je ne sais plus combien. 100, quelques centaines de milliers de neurones. Alors, évidemment, une activité tellement forte que du coup. Ils épuisent toutes les forces de vie, de ta vie humaine, pour longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Ton capital de vie est là, ici. Mais là, ici, ça c'est le lien entre l'intelligence contemplative, de l'intellect agent, et l'imaginaire. Alors du coup, toute cette attraction, cette véhémence, cette joie, cette allégresse de la conception de l'enfant, qui justement... Dès le départ, dès qu'il est conçu, ne pénètre pas dans l'imaginaire, il n'y a pas de cerveau. Il pénètre tout de suite dans le oui de Dieu. Et il est prêt à recevoir ce que le Verbe de Dieu vient lui montrer, l'illuminant, en lui montrant d'où il vient, d'où on vient, qui vient en même temps du Créateur et en même temps du Père, plus qu'il ne vient de ses parents. D'ailleurs, c'est pas séparé des parents. Et là, l'intelligence est tout à fait elle-même dans le petit, dans le tout petit. Elle est tournée en direction de la finalité de la nature humaine, de son esprit contemplatif. Tandis que quand je prends, c'est sous la forme d'un choc, des trucs qui se déchirent, et que je pars comme ça dans la lumière, et que je perçois. Il y a aussi des religions, il y a des religions qui sont basées là-dessus, pour inverser l'ordre naturel de la contemplation spirituelle de Dieu dans la mémoire de l'homme, dans la mémoire de Dieu, et la faire pénétrer dans le monde infini, un monde qui ne s'arrête pas, qui fait que je me gonfle finalement. Le schème de l'infini, c'est un schème imaginatif. Mais moi, je t'aime d'un amour infini. Je ne peux pas d'un amour, c'est impossible de plus t'aimer. C'est infini l'amour que j'ai pour toi. Voilà ça, si quelqu'un te dit ça, fais très attention. Très attention. C'est qu'il y a un très gros problème. C'est imaginatif. Alors, si quelqu'un t'a une manière imaginative, et à l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre amour, même pas le premier millimètre, même pas la première conception d'amour. Vous comprenez ? C'est facile, ça. Voilà l'enseignement de la sagesse contemplative et l'expérience aussi. Parce qu'on fait un arrasant. On est en raison que le Verbe de Dieu est envoyé par le Père à l'intérieur de notre âme dans sa mission invisible, qu'on est suspendu. On voit bien qu'on n'est pas dans le monde de l'infini, de l'imaginaire, et puis du ressenti, hein, métapsychique. Hein. Tout contemplatif le sait. Et le Père que seul connaît le Fils, et le Fils seul connaît le Père. Seulement le Fils. Jésus, à un moment donné, repousse la nature humaine qui s'est inversée dans l'infini, le vide d'amour infini satanique, et il fait remonter à la surface, jubiler dans la lumière de gloire, où il réattire dans la finalité. absolue de la conception. Et cette fois-ci, la conception de Dieu et la conception de l'homme ont pour vocation d'être indivisiblement unis dans la lumière de gloire. Alors là, une réjouissance normale qui se ferait immensément de la matière. Personne ne connaît le Père, seulement le Fils. Et personne ne connaît le Fils, seulement le Père. Et personne ne connaît le Père, seulement le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est pas dit le contraire, vous voyez. C'est pas dit le contraire. C'est pas dit personne ne connaît le Fils et celui à qui le Père veut bien le révéler. Non, non, c'est pas dit ça. C'est pour ça que, vous voyez, dans notre vie chrétienne, dans notre vie contemplative, dans notre vie d'union à Dieu, on est comme l'âme appelée à l'union parfaite avec lui. On est appelé à aller jusqu'au ciel, de la lumière de gloire, et personne ne pénétrera dans la lumière de gloire s'il n'est pas arrivé à l'union parfaite avec Dieu. Et pour toujours, le mariage spirituel, la victimation éternelle d'amour en nous, le mariage spirituel, la septième demeure, c'est-à-dire toutes les demeures à l'état parfait, non pas dans un monde infini, intérieur qui serait le nôtre, ce serait un comble d'orgueil. Un comble de tromperie. D'ailleurs, vous avez là de quoi connaître la spiritualité de l'Antéchrist. Un comble d'amour chrétien à l'infini, à l'infini. En fait, c'est un comble d'orgueil. Et personne n'y verra rien. Mais les enfants qui sont avortés, ils le verront bien, eux. Que ça, ce n'est pas la mort, ça. Les gens adultes disent, c'est formidable. Mais bon Dieu l'a voulu comme ça, c'est qu'à la fin, aucun être humain adulte ne le verra. Seulement les tout petits. Uniquement eux. Parce que c'est si proche de la conception. Conception, esponsalité, j'ai entendu ça un jour, lorsqu'elles sont indivisibles, alors il y a une mutation qui se fait, et le monde résurrectionnel de Dieu en nous commence. Et effectivement, vous voyez, le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. En hébreu, c'est fort de dire ça aussi, parce qu'on comprend que c'est une conception, puisque il y a une conception. Sinon, il n'y aurait pas paternité, il n'y aurait pas enchantrement, il n'y aurait pas conception. Et Dieu est fils, sinon il n'y aurait pas. La vie dans l'existence sacrée de Dieu, et sinon il n'y aurait pas. Il y aurait une distance entre l'existence de Dieu et sa vie. Or, il n'y a aucune distance entre l'existence de Dieu et sa vie. Aucune. Et ça, nous en faisons l'expérience dans l'oraison. L'oraison permet de voir Dieu. Non pas à la manière angélique, mais à la manière de sa propre conception. Et la personne qui est la plus proche de tout ça, c'est je suis l'Immaculée Conception. Ça qui est grand dans ce vers quoi nous allons en nous préparant vers l'avertissement. C'est bien ça, ce retournement de peinture humaine entière. Voilà. Jusqu'à, si c'est possible par la foi, ce qui dépasse la lumière de gloire dans l'hypostase de l'unique connaissance du Fils. Ah, oh, le Père est puis dans l'unique connaissance du Père, dans le Fils. Parce qu'à ce moment-là, on voit très très bien. On voit très très bien que en hébreu, c'est Yadda. C'est une naissance commune, absolument identique. Hypostatique. Indivisible, immortelle lumière d'amour. Et cette lumière d'amour est tellement lumière d'amour dans l'indivisibilité de la signification du don incréé que l'esponsale. L'esponsalité et conception, lorsqu'elles sont hypostatiquement une, voilà, on a la connaissance du Père par le Fils et la connaissance du Fils par le Père. Dans le psaume, c'est écrit en disant « Plonge tes deux mains dans le sein des saints et bénis le Seigneur. » Les deux mains. La mission invisible du Verbe de Dieu, la connaissance du Père, la mission invisible. La responsabilité incrée de Dieu, dans la clarification du Père. Et ça, vous voyez, c'est ce que Dieu, le Fils, a bien voulu le révéler aux chrétiens avec la grâce des sacrements. Si vous prenez la grâce des sacrements, si vous laissez la grâce des sacrements, si vous laissez la liberté, Dieu vivant dans la grâce des sacrements, opérez la création d'une conception nouvelle de la vie de Dieu. Alors c'est ça que vous allez voir. C'est là que vous allez voir ce comme au-delà de cette lumière de gloire, du face-à-face, du Père, du Fils, d'inspiration incrée. Et vous allez être pris par ça. Dans un amour absolu. Et vous allez vous laisser sans être détruit, au contraire, en respirant une conception de la victoire de l'amour sur tout ce qui ne l'est pas. Dès cette terre, dans la raison de l'union parfaite. Vous voyez, quand Dieu a voulu que ça révèle au tout petit, à ceux à qui il veut bien le révéler. Il y a vraiment une lutte contre l'antichrist là. Ça, c'est frontal là. L'oraison, c'est la lutte frontale contre l'antichrist. Mais l'antichrist, lui-même, on peut se gonfler, se gonfler d'amour. Se gonfler de lumière de Dieu, de lumière de Jésus. Se gonfler comme ça, se gonfler. La langue française est très riche. Dit, il est gonflé. Il se gonfle d'amour, oui. Et alors, j'avais cultivé ça. Dervis Tourneur. Hein. Bon Dieu. Voilà. Alors, toutes les mystiques, d'ailleurs, gnostiques, se gonflent. Beaucoup, beaucoup de munitions pour me gonfler d'abord, me gonfler d'abord. Que je puisse avoir un amour, je vais faire oraison comme ça, je vais m'engloutir, disparaître, disparaître, il n'y a plus que. Jésus, quoi, l'intérieur de Jésus, l'intérieur de toutes les énergies d'amour de Jésus, toutes les énergies, et à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini d'amour. Il y en a qui le fera parfaitement et même très incarné en plus, saisissant la matière de son la matière inerte, la matière, oui, la matière inerte de son corps spirituel. Il le fera, puisqu'il sera passé par l'avertissement comme nous. Il aura accès à la prise en main de son corps originel. Il aura accès à cette espèce de flux extraordinaire, possiblement épanoui dans le monde angélique de l'espace sans limite et sans fin. Parce que l'espace sans limite et sans fin du monde angélique dépasse l'espace limité de la création de l'univers. Et donc, avec la puissance du Christ, cet amour fini, infini, sans limite et sans fin, il va dépasser cet espace limité de l'univers entier, tous les temps, tous les instants, tous les espaces. Dans l'amour du Christ, patatras, c'est la tentation, ça. Hein? Et Jésus supplie parce que ça, les savants, ils le perçoivent pas tout de suite. Les savants de la religion, les savants de la mystique, les savants de la... Pour ça, j'aime bien ce qu'il dit le pape. C'est une révolution, ça. De l'histoire de la religion, c'est une révolution. De l'histoire de la spiritualité, c'est une révolution. Mais non. Et non, l'union parfaite avec Dieu, c'est pas, paf, tu tombes par terre et à l'infini la paix. Non, bien sûr que non. Oui, c'est bien. C'est pas méchant. Mais c'est pas. Mais ce n'est qu'une parabole, c'est tout. Comme tu vois une fleur de lys qui resplendit son odeur. Oh, dis donc, ça fait. C'est pas mauvais, c'est une parabole. Un signe, c'est une parabole. Mais dans l'oraison, on n'est pas dans la parabole. On est dans la conception. Oui, ça c'est trop fort ça. Faites ceci, emmène-moi, donne-moi. Même l'ange ne connaît pas, voyez. Et finalement, c'est à cause de ça. Quand on dit souvent l'épreuve, c'est l'épreuve de l'antéchrist, mais malheureusement, son orgueil ne lui permettra pas de se vaincre lui-même en son propre orgueil. Ça, on le sait d'avance. Malheureusement pour lui. La seule chose pour nous, c'est de ne pas faire comme lui. Sous prétexte d'amour. L'ange ne connaît pas Dieu parce que l'ange, c'est autre chose que Dieu. Donc simplement, il est mis à l'épreuve lui aussi. Mais la différence de l'ange et de l'antéchrist, c'est que l'ange, lui, il accepte de redescendre du monde sublime, sa magnificence. Sa magnifique splendeur intérieure. C'est sans limite et sans fin inégalable de ce qu'il est à l'intérieur, de l'attribut essentiel de Dieu lui-même, à l'intérieur de Dieu lui-même. Il est capable d'en redescendre, enfin, il est capable de frémir tout entier dans son existence intérieure sans limite, devant le tout petit qui est conçu. Et il dit oui, quoi. Et vous voyez, je sais pas, il y a une chose qui me frappe beaucoup. Ces jours-ci, on lit l'Ancien Testament un peu, hein, dans le livre de la Genèse, dans le livre de... Et à chaque fois, Dieu appelle comme ça. Et à un moment, il a appelé Élie. Il dit, Élie, Élie. Et Élie dit, ben voici. Aujourd'hui, Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, Moïse. Et Moïse répond, Et Abraham, on a lu. Abraham, Abraham. Et Abraham dit, me voici. Combien de fois, hein, il y a le nom prononcé par Dieu et la réponse aussitôt, me voici. Combien de fois c'est... Ça, c'est la grâce messianique qui a donné ça. De manière presque compulsive, spontanée, spirituelle, surnaturelle, au peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël ne connaît Dieu que par la conception lui-même. Me voici, c'est ce qu'on dit quand on apparaît à l'existence. Quand Dieu inscrit notre nom dans le livre de la vie. C'est ce que Saint-Père, le pape Jean-Paul II, a expliqué. D'Israël est prévu par Dieu depuis toujours. Dans l'émanation, à la réunion parfaite, dans le nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes pour qu'il y ait l'ouverture des temps. C'est pourquoi nous prions d'ailleurs toutes les nuits. Hein. C'est avec quoi nous prions toutes les nuits pour qu'il y ait ce baptême dans la conception. Et que ce baptême dans la conception soit un baptême d'hypostase. Et pour nous, ce n'est pas étranger, ça, puisque pour nous, l'Immaculée Conception nous est très, très, très familière. On est habitué à elle. Bon, je vois que tout le monde dort, alors on va dire la messe. Avec Saint Jean-Paul II. Il a dit ces paroles, personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils. Ce que tu as, cela que tu as caché aux sages, aux savants, c'est au tout petit que tu le révèles. Eh bien, ces paroles constituent un tournant fondamental. Dans l'histoire de la révélation de Dieu à l'homme. Un tournant fondamental dans l'histoire de la révélation de Dieu à l'homme. Dans l'histoire de la religion, c'est-à-dire du lien avec Dieu. Et dans l'histoire spirituelle de la nature humaine tout entière. Fondamental. Ouais. C'est pour ça, c'est drôlement bien. Revenir de notre monde infini, extraordinaire, merveilleux, de nous-mêmes, puis, et de venir frémir dans le rien, dans la conception, où on dit, je m'aime, me voici, et que l'union parfaite apparaisse à partir de ce me voici, parce que Dieu m'y prend et m'arrache à ce monde infini dans lequel j'ai tendance à me mettre. L'orgueil, c'est ça, hein, c'est... La gourmandise aussi, la boulimie de lumière, l'avarice aussi, c'est tout. Les sept péchés capitaux sont liés à ça. Ah, en hébreu, c'est ça, la connaissance. Je vois comme je suis vu. Et c'est une unique vision. En même temps, c'est le mot qu'on emploie pour l'union de l'homme et de la femme, lorsqu'ils disparaissent tous les deux dans l'au-delà de l'unité des deux. Mais avec la chair, le sang, tout. Yadda. Et puis en même temps, c'est la conception. Je nais, c'est une naissance. C'est une naissance à partir d'un principe. Et qui fait que je suis dans l'un. Naissance dans l'un. Et en même temps, quatrièmement, c'est une conception. Ce mot-là, voyez, vous savez les quatre qui sont dedans. Et à chaque fois, c'est dans un silence qui ouvre toutes ses portes à l'admiration éternelle et hypostatique de Dieu. Yod, Alev, Talet, Alev. Yadda. Une double porte. Une porte transverbérante. Et ce retour quoi, à la conception, à la mémoria dei. Ah ben voici la divine volonté. Où je peux être saisi, assumé, englouti, et à partir de là, un monde absolu de Dieu qui me fait échapper à toute tentation de la créature. La tentation angélique existe aussi. Et les anges, ils sont extraordinaires, les anges. Saint-Michel Archange, par exemple. Aussitôt, ils frémissent comme ça, dans ce frémissement. Ils frémissent eux-mêmes, et c'est comme s'ils venaient disparaître. Il n'y a plus rien qui les intéresse que ce rien. Et à partir de ce rien, c'est me voici de la conception. Ça les fait pénétrer à l'intérieur de Dieu. Ils sont déjà à l'intérieur de Dieu dans les attributs. Ça les fait pénétrer dans l'absolu, hypostatique. Et là, ils voient le Fils, ils voient le Père. Mais s'ils ne passent pas par la conception, s'ils ne passent pas par l'immaculée conception, s'ils ne passent pas par l'humanité, ils ne peuvent pas. Ça, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit non, je ne passe pas par là, moi. Dieu se trompe, on ne peut pas passer par la petitesse, la toute petitesse, la petitesse presque absolue, essentielle, substantielle, pour le glorifier, il s'est trompé. Il faut qu'il passe par moi, qui suis l'absolu, essentiel et substantiel de l'immense grandeur et de l'infini d'amour. C'est par là qu'il faut passer. Là, il ne va pas se tromper, là. Il aurait voulu que le Verbe de Dieu prenne hypostatiquement chair, union avec lui, sa nature angélique, pour illuminer, sauver le monde, qui va créer par ailleurs. Et non, c'est Jésus. C'est pas toi, c'est Jésus. Par l'Immaculée Conception. La Sainte Famille. C'est quoi ça? L'humilité, effacement, la petitesse, la conception. On comprend très bien que ça n'a pas dû. Il a fallu un retournement complet, quoi, de leur relation avec Dieu pour rentrer. Hein, l'épreuve d'Angélique, c'est pas rien, là. Et quelque part, il faut bien la regarder, cette épreuve-là. Il faut bien la regarder, il faut bien se mettre à leur place. Il faut bien le faire avec eux, voir ce qu'ils font. Voilà, parce qu'ils en échappent. Et qui ne tombent pas dans la tentation, et qui sont délivrés de mal possible, et ceci en un seul instant, seul soir. Et c'est à partir de la puissance de l'attribut divin qu'ils sont eux-mêmes, donc avec une très grande force. Et quand je vis, et je vois, je contemple, et je me laisse aller avec eux, et faire en même temps que ce me voici à la volonté éternelle et divine. Lorsque ces deux mouvements se réalisent ensemble dans l'offrande à l'heure de Jésus, de l'Immaculée Conception, dans cette première conception éternelle de Dieu, qu'il ait fait exister dans cette conception même, à l'intérieur de la création. Là, ça y est, je suis dans la disposition initiale de mon inscription dans le livre de vie. Et donc, je suis dans l'état dans lequel je peux recevoir le corps spirituel venu d'en haut. On va être ici pendant 3 jours et demi pour suivre le parcours comme ça. De l'instant présent, hein. Ah, il va y avoir 7, 8, 9 personnes qui vont arriver. C'est pas grave, on commence sans elle. Mais ce qui compte, c'est ça. C'est rester fidèle. Hein. Si Dieu veut nous assumer, si Dieu veut nous prendre, qu'il nous prenne. On se laisse conduire. Dans le monde nouveau, vous savez. Pendant 3 jours et demi, c'est tellement bien de faire ça. C'est un moine ou une petite carmélite pendant 3 jours et demi, une fois dans sa vie. On vit le rythme de la vie contemplative catholique. Le Dieu Saint-Père, dans les sacrements et dans l'ambiance du Saint-Esprit, dans le souffle de Marie, dans son mystère de compassion, voilà. Et on prend ce rythme. On prend ce rythme trinitaire. On ne cherche pas autre chose. Le rythme aussi de l'Église de Jésus. Et avec le Saint-Père. Et dans le sein du Père.